Donc voilà, donc bon, c'est vrai que je n'avais pas trop réagi, sauf à une occasion ou deux, je vous avais j'avais donné mon avis sur des choses. Là, il m'a semblé que, vu le contenu et vu tout ce qui se disait, tout ce qui avait été donné comme information à la population, pas de notre part, hein. Nous, moi, j'ai essayé de privilégier les conseils municipaux et de répondre aux questions qui m'étaient posées au conseil municipal. Mais il m'a semblé qu'il était important, et d'ailleurs, beaucoup de gens, beaucoup d'administrés sont venus me voir pendant tout l'été, ou même encore récemment, pour me dire « vous devriez communiquer plus, vous êtes trop gentil, il y a des choses qui se disent qui sont intolérables, il faudrait que vous réagissiez ». Donc, après l'analyse de toutes ces choses-là, il m'a semblé bon et que c'était le bon moment pour vous inviter et puis vous donner notre réaction, parce que comment on réagit. Alors, par rapport à ce qui se dit, moi je voudrais faire un rappel par rapport par rapport à la chronologie un peu des choses. Donc nous, on a été élus en 2014. Hein, en 2014, je rappelle que lorsqu'on a été élu, on a été élu sur un programme de redynamisation de la commune. La commune à l'époque était effectivement avait quelques difficultés. Hein, on avait des commerces qui fermaient les uns après les autres. On avait sur le Greta un chantier qui s'apparentait plus à un chantier de guerre ou d'après-guerre qu'à une entrée de petite cité de caractère. On avait des bâtiments qui tombaient en ruine, je pense notamment à la maison Limbourg, à le bâtiment qui est juste au coin là, là où il y a maintenant nous, ce qu'on appelle la maison des costumaires, et où il y a Alliance et puis deux logements. On avait un certain nombre de commerçants qui s'inquiétaient à juste titre en se disant « mais si on continue comme ça, on va se retrouver tout seul et il n'y aura plus rien ». On avait des services qui partaient, hein, la perception fermait, c'est un des derniers services qui a fermé. Voilà, on était dans une situation très compliquée. Donc effectivement, on a été élu sur un programme de redynamisation pour essayer de redresser cette situation. J'ajoute que dernier élément, qui n'était pas des moindres, c'est qu'on perdait de la population au fil des années. À chaque recensement, on perdait de la population. Et on était arrivé pratiquement à la limite des 1000 habitants, hein, puisqu'on était à 1000, un peu plus de 1000 habitants.
Et 1061, je
crois. Ouais, ouais. Donc la situation était quand même assez alarmante. Donc voilà, nous on est arrivé, on a fait un programme. On a saisi des opportunités, je le dis, parce qu'aujourd'hui, ça prend toute sa dimension, parce que quand on a été élu, effectivement, sur ce programme, voilà, il s'est trouvé qu'à peu près dans la même période, on a eu deux ou trois appels à manifestation d'intérêt, un national et un plus régional, qui nous ont permis de faire valoir notre projet, de vendre notre projet, et de faire en sorte qu'on ait un subventionnement pour les investissements qui soient importants, hein, je le dis, parce que c'est vrai que tant de l'État, mais surtout la région, nous a bien aidés par rapport et ce qui nous a permis, effectivement, et ce qui nous obligeait, effectivement, à faire les investissements pour pouvoir prétendre. Donc, les investissements, on en a fait pas mal, hein, je crois qu'en 10 ans. On a commencé par la maison de santé, c'était le premier maillon d'une bataille qu'on menait depuis un certain temps pour l'obtention ou la reconstruction de l'hôpital. On a eu la maison France Service, bien évidemment. On a fait l'aménagement où il y avait un chantier de guerre, je disais tout à l'heure. On a mis un espace public parce que c'était aussi plébiscité par les habitants et que c'était ressorti de toutes les enquêtes de population qu'on avait faites, que c'était quelque chose qui faisait cruellement défaut sur la commune. On a obtenu la reconstruction de l'hôpital, de la masse, hein, ce qui n'était pas gagné. Et je crois que même peu de gens, à part nous, y croyons au départ. On a fait tout l'aménagement de la rue Saint-Roch dans le cadre des entrées de ville, la rue Jean-Martin et la rue du Stang. On a créé des parkings pour l'accessibilité pour les commerçants, parce que qui dit travailler sur le commerce, l'attractivité, commercial, il faut aussi donner la possibilité aux clients de pouvoir stationner et tout ça. Et puis on a commencé l'aménagement de deux bâtiments, la maison Le Costumeur qui est finie, hein, qui est habitée, qui est occupée avec un espace commercial en bas et deux logements dessus. Et puis on a commencé la maison rue Tréhibil où
L'Odyssée, c'est ça ?
Ouais, L'Odyssée, c'est ça. Voilà, où il y a où il y a déjà, c'est bien avancé, il y a cinq logements. J'y reviendrai tout à l'heure parce que, alors ces réalisations, effectivement, elles ont nécessité des investissements importants, c'est clair. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ils ont été, malgré qu'ils ont été bien subventionnés, ils restent néanmoins. Et ça, c'est le fonctionnement de tout un chacun et de toutes les collectivités. Lorsque vous faites des investissements importants comme ça, vous pouvez être très bien subventionné. Il n'empêche qu'il reste toujours un reste à charge important pour la commune. Alors, quand c'est des petits investissements de 10 ou 20 000 euros, je prends toujours cet exemple-là. Bon, si vous avez 1% de reste à charge, ça va, ça vient. On arrive toujours à les trouver dans une trésorerie ou des choses comme ça. Quand vous êtes à plus de 4 millions d'euros, parce que c'est à peu près la dimension des investissements qui ont été faits, je crois même que ça les dépasse si on faisait le total de tout, c'est plus la même chanson. C'est-à-dire que 20% de reste à charge, c'est 800 000 euros, auquel il faut rajouter la TVA, qui ne nous est remboursée que 2 ans après. Donc ça veut dire que vous avez en reste à charge 800 000 euros, pardon, plus autant de TVA. Donc ça fait 1,6 million que vous devez sortir. Alors, ça, c'est une explication technique. Ce n'est pas une justification, encore une fois. C'est une explication technique pour bien comprendre comment ça fonctionne.
Juste entre le chiffre de 1,6 million et plus de 4 millions. Plus de 4 millions, c'est quoi ? C'est l'ensemble du reste à charge ?
4 millions, c'est... Ah non, non. 4 millions, c'est l'enveloppe, si vous voulez, des investissements qui ont été faits. Global.
D'accord.
Si on prend ce qu'on en est... Alors, on n'a pas tout à fait eu pour tous les investissements, 80%, mais enfin, on s'en est approché quand même sensiblement. Partons du principe qu'on avait 80% de subventionnement. Les 1,6 million, si vous voulez, c'est 20% de TVA qu'on paye, hein, qu'on est obligé de payer, plus les 20% de reste à charge. Donc, ce qui fait en gros 40%, ce qui vous... Ça, c'est une donnée qui est vraie dans toutes les communes de France. Alors, effectivement, quand vous ne faites pas d'investissement, vous n'avez pas cette problématique. Alors, pour revenir à ces investissements, moi, je vous dis aujourd'hui, notre sentiment, hein, et on en a discuté à plusieurs reprises, oui, on est fiers de ces réalisations, parce que, comment ? Parce que quand on est arrivé, tout le monde s'interrogeait sur l'avenir de Guémené, sur sa place, sur son rayonnement au niveau du territoire. On a aussi une responsabilité, je pense qu'on avait bien comprise, c'est qu'en tant que capital économique, alors c'est un mot que j'aime pas trop parce que ça fait un peu fanfaron de dire ça, mais il n'empêche que c'est une réalité historique. Hein. Guémené a toujours été un centre névralgique au niveau économie, au niveau social, au niveau commercial. Et donc, cette place-là, et si nous on ne la prend pas, ou si nous on n'y répond pas en tous les cas, il est évident que sur un territoire comme le nôtre, personne d'autre ne pourra le faire. Et si on n'avait pas fait ces investissements, si on n'avait pas réussi ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire qui serait très fortement impacté. Donc oui, on est très fiers de ces réalisations. Moi, je suis fier quand... on est notre équipe, et ça, on ne l'a pas fait. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec deux équipes successives d'élus, mais aussi en dehors, il y a eu d'autres partenaires, hein, je pense à l'hôpital et tout ça, il y a eu le comité du... Donc tout ça, ça s'est fait d'une manière collective. Et oui, on est fiers de ces réalisations, malgré ce qu'on nous dit. Alors, quand on nous parle d'orgueil, dans certaines réunions, on y dit l'orgueil du maire. Alors si c'est l'orgueil du maire d'être fier de ce qu'on a réalisé et de fier de ce qui est devenu Guémené, je veux bien prendre cette terminologie, parce que effectivement, ça nous correspond. C'est effectivement, on est fiers d'avoir aujourd'hui une ville, belle ville, d'avoir une ville qui est où on a 70 commerces, artisans, où on a des associations On a encore des demandes là, récemment d'associations qui sont implantées un peu à droite à gauche et qui voudraient venir sur Guéhenné parce que c'est l'image que ça donnait. On est fiers effectivement d'avoir inversé pour la première fois la courbe de démographie parce que là où on perdait depuis... Moi, je suis remonté à 68, mais on aurait pu remonter avant, je crois que c'était déjà antérieur. Oui, on est fiers, et puis je pense que c'est pas fini, et qu'on est sur une dynamique qui va faire que dans les années à venir, ça continuera. Oui, on est fiers des animations qui se déroulent à Guéhenné, qui sont organisées par la municipalité, auxquelles on peut participer en termes de logistique, d'apport logistique ou autre. Mais en tous les cas, on a une ville où il se passe des choses, c'est vivant, il y a tout le temps quelque chose, et je pense que des animations et des ambiances qui sont importantes, qui donnent une vitalité. Aujourd'hui, les autres communes disent on fait le constat qu'il n'y a plus grand-chose qui se passe. Nous, il se passe toujours quelque chose, hein, et je pense que c'est un ensemble. Oui, on est fiers parce qu'on a des terrasses. Je le dis parce que les terrasses ont été pointées du doigt à un moment donné. En tous les cas, l'occupation de l'espace public a été pointée du doigt. Donc je vais expliquer que nous, on a voulu faire ces terrasses. Je rappelle que ces terrasses, elles étaient préalablement au Covid, à l'époque Covid, avant 2020, on les a montées et elles étaient montées et démontées juste pour la saison. Et puis quand il y a eu le Covid avec les problèmes et les risques pour les commerces de proximité, après en avoir échangé, on s'est dit que c'était peut-être bien de les avoir en permanence et de pouvoir que tout le monde en profite dès qu'il y a un rayon de soleil, même à cette période-là où il ne fait pas très chaud. Donc oui, on est fiers de tout ça. On est fiers de la qualité de vie qu'on a à Guéhenné. Moi, je veux vous dire qu'une de mes fiertés ou une de nos fiertés, c'est quand les gens viennent, et des gens pas forcément de Guéhenné, hein, des communes alentours, tout ça, qui nous disent nous on vient à Guéhenné, maintenant on a tout ce qu'il faut, c'est même plus la peine d'aller ailleurs, parce qu'à Guéhenné on trouve tout ce qu'on a besoin en termes de services, en termes d'équipement, en termes de commerce. Oui, ça, là-dessus on est fiers de notre attractivité, parce qu'on a encore très régulièrement, et j'en ai encore, tu y reviendrai tout à l'heure, des gens qui viennent avec des projets, qui veulent s'implanter à Guéhenné, qui ont fait des études et qui trouvent que y a un potentiel important encore à exploiter sur Guéhenné. On est fiers des labels qu'on a obtenus, parce que ces labels-là, ce n'est pas nous qui les avons découverts, c'est le fruit du travail qui a été reconnu par un certain nombre d'instances, hein, que ce soit les villes fleuries, le renouvellement des petites cités de caractère, que ce soit les pays d'art et d'histoire, que ce soit récemment, très récemment, le label site remarquable du goût, où on n'est que deux dans le Morbihan à avoir obtenu ce label-là, hein, donc Guéhenné et Pénétin. Oui, on est fiers de tout ça. Alors si c'est ça qu'on nous reproche en disant, ou qu'on me reproche plus particulièrement, parce que c'est plus ciblé sur ma personne, mais l'orgueil du maire, dans ces cas-là, oui. Je ne fais pas un orgueil pour un orgueil. C'est oui, parce qu'on est fiers du travail qui a été fait, et je pense qu'on l'a fait. Tout ça, ça a été fait à une période, et je l'ai dit un peu tout à l'heure, je pense qu'on a saisi des opportunités quand on est arrivé, de ces appels à candidature, des appels à intérêt. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire la même chose. Si on devait refaire, quand on voit l'évolution qu'il y a eu, alors c'est pas que l'évolution de Guéhenné, hein, c'est l'évolution en termes de au niveau national, au niveau régional, à tous les niveaux. Vous voyez bien que tous ces appels à manifestation d'intérêt, ces appels à projets, ça a évolué, mais pas forcément dans le bon sens. Hein, il y en a moins, et quand il y en a, on est loin. D'ailleurs, il y avait un sous-préfet, quand il est venu inaugurer la maison France Service, le sous-préfet de l'époque, m'avait dit « Monsieur le maire, vous êtes le dernier maire à avoir eu autant de subventions. Ça n'existera plus. » C'était en 2019. Donc, effectivement, déjà, on sentait les prémices d'un retournement de situation. Donc, dans la vie, moi, je pense que c'est aussi le rôle des élus d'être un peu... appelons ça... Parce que si on utilise ce terme-là, peut-être certains diront utopistes, ou en tous les cas, un peu se projeter dans l'avenir et se dire profitons des opportunités, on n'est pas sûr de les retrouver demain. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et effectivement, je pense que si aujourd'hui on a... puis ils sont bien là, hein, je veux dire, c'est, l'hôpital il est là, la maison de France Service elle est là, c'est pas des trucs éphémères qu'on fait... ils sont bien là, tous ces équipements. Et ils sont là pour rester, pour durer, pour se développer, pour amener encore plus de services. Donc voilà, ça a été des gros investissements. Et donc, qu'est-ce qui explique aujourd'hui... Alors, on n'a pas fait tout, on n'a pas été parfait. Hein, moi, je ne prétends pas qu'on ait la science infuse, qu'on soit parfait. Loin s'en faut. On a fait ce qu'on a cru devoir faire dans le cadre d'un engagement qu'on avait pris vis-à-vis de la population. Et puis après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses que nous, on avait prévues et qu'on avait imaginées, qu'on avait prévues. Et puis, malheureusement, ben, ça ne se passe pas toujours comme ça, parce qu'il y a des choses qui interviennent à un moment donné dans la vie, sur la durée, hein, sur 10 ans, ben, il se passe des choses. Il y a des choses qui... vous pouvez prévoir quelque chose à une année, puis 2 ou 3 ans après, les choses se modifient, et pas forcément dans le bon sens. Alors, ce qui nous est arrivé, notre grosse problématique aujourd'hui, et c'est ce qui nous amène à la situation dont on est aujourd'hui, et c'est qu'on avait prévu, et c'est pour ça que quand on me dit, j'y reviendrai sur ce qui a été dit dans les réunions publiques, où en gros, on a l'air de, quand on lit ou quand on entend ce qui a été dit, c'est qu'on gère la commune un peu à petite semelle, n'importe comment. C'est-à-dire qu'on prend des décisions un matin en se réveillant, on dit tiens, si on faisait ça, et puis non. Toutes les décisions qu'on a prises, elles ont été mûrement réfléchies, elles ont été travaillées, pas tout seul, avec à chaque fois des comités de pilotage qui réunissaient un certain nombre de partenaires, tous les partenaires financiers déjà, et puis d'autres. Donc non, c'est pas le style de la maison. On avait bien imaginé, d'ailleurs, dans notre projet, on savait, parce qu'on savait le mécanisme, il n'a pas changé, celui-là, malheureusement. On a essayé de le faire changer pour certaines choses, mais on n'a pas pu, notamment pour la TVA. On avait demandé si on pouvait repasser, comme il y avait eu une fenêtre en 2012, je crois, où les communes pouvaient demander à avoir le remboursement de la TVA à N+1. Plutôt qu'à N+2. Bon, mais sauf que j'avais même à l'époque interroger un secrétaire d'État au budget qui était venu dans le secteur, qui m'avait dit non, c'est plus d'actualité, ça a coûté trop cher à l'État, on ne reviendra pas là-dessus, et donc voilà. Donc oui, ces investissements, on avait bien identifié en tous les cas qu'à un moment donné de notre cycle d'investissement, qui était raccourci du fait des subventionnements qu'on avait, on aurait un problème de trésorerie. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avancer 1,6 million de trésorerie des communes comme nous, effectivement, c'est extrêmement compliqué.
Sur un budget de...
Sur un budget de 3 millions, quoi. Quand je réunis le fonctionnement et l'investissement. Donc c'était énorme. Par contre, donc nous, on avait regardé comment on pouvait pallier à ça. Donc il y avait plusieurs choses, et notamment les cessions de bâtiments. Parce qu'on avait fait le recensement un peu de tous les bâtiments qu'on avait sur la commune. Et on en avait un certain nombre, pour ne pas dire même un nombre certain, beaucoup trop important pour une commune comme la nôtre. Qui était l'héritage un peu de l'histoire, hein, de bâtiments qu'on avait eu, qui avaient été rétrocédés à la ville, enfin bon, qui avaient été acquis par divers biais. On avait dès le départ identifié qu'on avait des bâtiments. Une collectivité, elle n'a pas vocation à avoir un patrimoine énorme. Il faut qu'on ait un patrimoine pour pouvoir développer des services, des activités, mais après, alors, on en a acquis quand même, par rapport à, je reviendrai aussi tout à l'heure, on en a acquis un certain nombre, mais dans un but bien précis, c'était de, toujours dans le cadre de la redynamisation, d'offrir des lieux, comment vous pouvez installer des commerces avec des prix attractifs en termes de loyer ou des choses comme ça. Donc on en a acquis. Mais à un moment donné, on ne peut pas continuer à avoir. Et on s'était dit que c'est un peu un mode de gestion qu'on connaît, ou que des entreprises ou que des particuliers connaissent. Ben, si on veut investir dans d'autres choses, il faut vendre pour pouvoir se faire une trésorerie. On est parti de ce principe-là tout bonnement, qui était, je pense, de se pas débarrasser, parce que vous ne pouvez pas, mais de se séparer d'un certain nombre de bâtiments qui nous étaient plus utiles, je dirais, entre guillemets, qui, enfin, pour les besoins de la population, ou qui pouvaient être mis dans le circuit privé et qui, ces bâtiments pouvaient retrouver une autre activité, donc bénéficier encore à la collectivité, parce que quand on a des bâtiments qui aujourd'hui sont vides depuis un certain temps et qui ne servent à rien, si on les remet dans le circuit privé ou dans notre circuit et que derrière on a des commerces, des activités économiques ou des choses comme ça qui s'installent, c'est aussi dans l'intérêt de la collectivité. Donc du coup, ça apporte, ça renforce l'attractivité de... Donc on était parti de ce principe-là, et dès 2021, pour dire que c'est pas une décision qu'on a prise à la petite semelle en dernière minute, hein. Dès 2021, on avait identifié un certain nombre de bâtiments dont on pourrait se séparer, dont on pourrait, en tous les cas, remettre sur le marché pour qu'ils soient... Alors, il y en a un, ça a été assez vite, c'est l'ancienne caserne des pompiers, ça a été... on l'a vendu assez vite. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a le cabinet vétérinaire qui est toujours dedans, il y a deux appartements qui sont en train de se faire au-dessus. Donc, tout ça, ça conforte ce que je disais tout à l'heure. Et puis, malheureusement, et on est tombé juste après le Covid... avec un certain nombre d'événements qui sont aussi arrivés, autres que le Covid. Alors, il y a eu d'autres choses. Le bâtiment, par exemple, rue du Château, on l'avait mis en vente, et puis peu de temps après qu'on l'ait mis en vente, il y a un commerçant dont la boutique a brûlé la boulangerie, entre autres, et qui était bien dans la peine et qui devait arrêter son activité parce qu'il n'avait plus de locaux, plus rien pour rien. Et donc, nous, toujours dans ce cas de redynamisation, toujours dans cet objectif, on s'est dit, à une boulangerie sur le centre-ville, il faut absolument qu'on l'aide. On n'a pas été tout seul, d'ailleurs, un certain nombre d'autres personnes, d'autres commerçants ont participé à l'aide. Mais nous, on avait un local qui se libérait, puisqu'il était en location, qui se libérait. Donc, on lui a proposé de lui mettre à disposition pour pouvoir continuer son activité. Donc c'est vrai qu'on a gelé la vente de ce bâtiment pendant toute cette durée-là, une durée qui a été longue d'une année pratiquement. Après, on a eu le bâtiment de Bellevue pour lequel on a eu quelques soucis quand on a eu les résultats des diagnostics, pour lequel il a fallu faire un certain nombre de traitements, de travaux, de façon à ce qu'il soit en phase avec les diagnostics demandés. Donc tout ça, ça a retardé. Ce qui fait qu'on est tombé dans... On est passé d'une période qui était plutôt intéressante en termes de marché immobilier à une période beaucoup moins faste. Les ventes... on avait des estimations. Moi, j'ai une attestation là du notaire qui me dit qu'effectivement, quand ils ont évalué le bien en 2021, je parle de Bellevue, ils l'évaluaient à 250 000 euros, alors qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier, il est un peu moins... dynamique et qu'il faut le revoir. Donc voilà, on n'a pas pris...
Excusez-moi, aujourd'hui, il est estimé à combien ?
Alors aujourd'hui, on l'a mis en vente puisque c'est la dernière décision qu'on a prise au conseil municipal du 12. Hein,
jeudi dernier.
Parce qu'on l'avait mis en vente par adjudication au mois de juillet, puis bon, là, avec les élections et tout a été... Il n'y a pas que chez nous, hein, j'ai vu à Pontivy aussi où il y a eu des adjudications... Tout ont été... on l'a remis en vente. Et donc, sur les conseils du notaire, hein, encore une fois, de façon... Alors, ça ne veut pas dire, j'espère bien qu'il ne sera pas vendu à ce prix-là, mais de mise en vente à 120 000 euros pour pouvoir être attractif. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est des mesures qu'on a prises dès 2021. Donc, on n'a pas... Et ces sessions, à chaque fois qu'on a fait des sessions, et c'est là où j'entends ou que je lis ce qui a été dit, on a l'impression que on brade tout ce qu'on vend. Pour la petite histoire, la maison rue du Château, la dernière qu'on vient de vendre, pour laquelle on a attribué la vente au mois de. Au dernier conseil du 12. C'est un bien qu'on avait acheté, qu'on avait fait acheter par l'EPF, parce que l'EPF, je ne sais pas si vous connaissez le principe, l'EPF, c'est un organisme public qui est là pour accompagner les collectivités et qui est là pour le faire du portage foncier, c'est-à-dire qu'ils achètent pour le compte des communes. Ça évite aux communes à sortir de la trésorerie et ça permet d'avoir une durée pendant laquelle soit on trouve des nouveaux projets, soit on trouve des porteurs de projets, et de façon à ce que ça ne pèse pas. Mais en tous les cas, on a la maîtrise, puisqu'on a l'usufruit, ce qui nous permet aussi de maîtriser et de jouer sur ça. Quand on a acheté ce bâtiment-là, on l'avait acheté 45 000 euros à l'époque. On voulait le mettre en location, puisque c'était un des principaux problèmes, c'est qu'on avait des porteurs de projets mais qui ne voulaient pas investir, qui voulaient louer et qui ne trouvaient pas de location à du prix. Donc on a trouvé, on a installé un commerce en bas.
On parle du bâtiment de Bellevue, là.
Non, de rue du Château. Il est où ce bâtiment-là?
C'est celui qui est au coin, là. Celui qui est juste au coin, là où il y avait la boulangerie.
D'accord, oui, là.
Donc là, on a mis un commerce, ça a permis d'installer un commerce, et on a loué l'appartement du dessus. Les deux loyers réunis, ça faisait à peu près 800 euros par mois. On a fait ça pendant 5 ans, la durée du portage, puisqu'à l'époque, l'EPF, c'était 5 ans les conventions. Donc, on a loué pendant 5 ans, c'est la commune qui a bénéficié des loyers, parce qu'on en avait l'usufruit, donc c'est nous qui fixions les loyers, et c'est nous qui en calcions. Donc vous faites le calcul, sur 5 ans, on avait pratiquement payé le bâtiment. Les loyers nous ont payé le bâtiment. Et aujourd'hui, puisque enfin hier, c'était la semaine dernière, on le revend 112 000 euros. Donc quand on nous dit qu'on brade le patrimoine, qu'on vend les bijoux de famille ou ça. Voilà, qu'on m'explique, qu'on me dise sur quoi on s'appuie pour faire ça. Parce que c'est vraiment. Et dire ça, c'est de la désinformation, quoi. On ne peut pas appeler ça autrement. Donc voilà, donc nous. Et je pourrais prendre des exemples. L'ancienne caserne des pompiers, on l'a vendue 150 000 euros, prix où elle était estimée. Ça a été vendu à ce prix-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est les seuls qu'on ait vendus, en fait. Aujourd'hui, on a mis en vente le café pointu à 100 000 euros. C'est l'estimation aussi qui a été faite. On remet Bellevue en vente, en adjudication, mais avec un prix de départ de 110 000 euros. Voilà, c'est les prix du marché. C'est pas des
110 ou 120.
120, pardon. J'ai dit 110, non, excusez-moi, 120. Donc voilà, c'est les prix du marché. Un autre point pour donner un deuxième exemple aussi, on nous fait le reproche que ça reste en l'état, et je suis bien d'accord sur le fait que j'aimerais mieux que ça soit rénové, mais sauf que ça a été vendu à l'ancien hôtel des Princes. C'est pareil, on avait acheté. Alors, cette opération-là, on l'a fait aussi avec l'EPF. C'est-à-dire qu'on a acheté ce bâtiment. Alors, quand je dis on a acheté ce bâtiment, on a acheté l'ensemble
du parc.
C'est-à-dire qu'il y avait, le bâtiment, mais il y avait aussi tout le parking privé qui était derrière.
Vous avez aménagé
le passage et tout ça. Donc, c'était dans notre perspective aussi de développer l'accessibilité pour les commerces. On a acheté ça en se disant le bâtiment lui-même, il ne nous intéresse pas plus que ça, mais on va le remettre en vente, mais par contre, on va d'un parking privé, on va en faire un parking public, sans avoir à démolir, à détruire l'esprit ou le patrimoine existant. Si bien qu'on a, fait cette opération, on a acheté 69 000 euros à l'époque. C'est ça, 69 ou 65 ?
69, je crois.
Oui. 69, comment ? Non, on a acheté 65 et on l'a revendu 69. Le Clos des Princes, et on l'a revendu 69, avec. Mais on a gardé le foncier, c'est-à-dire tout le parking, et on a pu ouvrir le passage pour faire un passage pour accéder au commerce de proximité. Donc tout ça, c'est tout pour dire que toutes ces décisions, elles n'ont jamais été prises comme ça, sans réflexion, sans rien du tout, et que et que si on est arrivé aujourd'hui à ça, on l'a fait en toute, avec toutes les, les réflexions et les analyses qu'on avait.
Est-ce que vous dites juste, on avait bien identifié dans le cycle des remboursements un problème de trésorerie?
Oui, parce qu'on savait qu'on aurait un décalage de trésorerie entre le moment où nous, il fallait qu'on avance. Parce qu'en fait, à chaque fois, une collectivité, pour qu'on puisse avoir, même si on est bien subventionné, pour avoir les subventions, il faut d'abord qu'on avance l'argent. Bien sûr. Alors, quand je dis ça, tout à l'heure, je parlais d'1,6 million. Là, par exemple, vous avez quand vous faites des travaux sur un bâtiment, ou vous achetez, ou vous faites... C'est l'ensemble, c'est tout le montant. Pour avoir les subventions, avant d'avoir les subventions, il faut que vous avanciez tout le prix du marché.
TVA comprise.
Des entreprises.
TVA comprise, c'est ça.
Et TVA reste à charge, tout, mais y compris... imaginons, vous avez un bien... Bon, on va prendre la maison Limbourg, par exemple. Ça a été à peu près un peu plus d'1 million de rénovations sur la maison Limbourg. Sur ces 1 million, on a eu, pratiquement 80% de subventions qui nous ont été attribuées. Mais pour toucher ces subventions, il a fallu que nous, on avance les 1 million. Et on a eu les subventions au fil de l'eau, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et souvent plusieurs mois après qu'on les ait avancés. Et ça, c'est la totalité. Et dans les subventions, on ne nous donne que 80%. Donc sur 100% plus la TVA, 120%, ben vous perdez. Enfin, je ne sais pas si je suis clair.
Non, mais parce que la difficulté ne tient pas juste à un décalage dans le temps, parce que sinon, vous n'auriez pas un problème avec ce reste à charge. Là les 1,6 million sont...
Alors, il y a une partie qui a été payée. Aujourd'hui, on n'est pas à 1,6 million.
Mais c'est ça.
Aujourd'hui, on n'est pas à 1,6 million. Aujourd'hui, on a... Alors, on a deux... Ce que la Cour des comptes nous a retenu, on est un peu divergent, a retenu, c'est un déséquilibre à hauteur de 900 et quelques mille. Il se décompose de deux choses. Une partie recette et une partie dépense. Enfin, une partie fonctionnement, une partie investissement. Nous, ce qu'on a dit à la Cour des comptes, ce qu'on a dit au préfet, mais qui n'a pas été retenu parce que ce sont des gens à la CRC, ce sont des gens factuels. Hein. Donc, c'est fait, on en tient compte, c'est pas fait, on n'en tient pas compte. En gros, si je schématise, c'est à peu près. Nous, les cessions de bâtiments, on avait bien dit, et c'est là où je disais tout à l'heure qu'on avait identifié, c'est que le fruit de ces cessions-là devait nous permettre de recréer de la trésorerie pour permettre justement d'amortir ou de... C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais ce qu'on a décidé en 2021, ce qui n'a pas pu être fait complètement depuis, et ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive au bout du bout et la Cour des comptes nous dit il faut bien, à un moment donné... Un déséquilibre, il faut le rétablir. Alors, eux, ils ont trouvé une solution que le préfet a entériné, c'est d'augmenter les impôts et de diminuer un certain nombre de dépenses. Nous, on n'est toujours pas d'accord, ça c'est clair. C'est pas la solution, d'une part, et puis en même temps, c'est pas juste pour la population. Donc ça, je répète, cette décision-là, c'est pas notre décision, c'est une décision qu'on subit au même titre que le monde, a été prise par le préfet. Nous, on avait proposé, mais il fallait nous laisser un peu de temps, et ça, voilà, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est de faire ces cessions pour que, avec le fruit de ces cessions, d'une part, pour une partie, on puisse rétablir, apurer les restes à réaliser, ce qu'on appelle les restes à réaliser en termes budgétaires, qui représentent une petite moitié à peu près des 900 000, et que pour le reste, on trouve une solution en externalisant ces charges-là de façon à ce qu'elles n'incombent plus à la commune et qu'elles ne pèsent plus ni sur le budget ni sur la trésorerie de la commune. Ce qu'on est en train de faire avec un organisme, un bailleur départemental, Guillaume Habitat, pour ne pas le citer, mais qui est en cours. Alors, effectivement, c'est en cours, donc on n'a pas les résultats, mais L'idée, c'est qu'ils prennent le relais de ce bâtiment qui est à finir.
Là, on parle de l'Odyssée.
Oui. On parle de l'Odyssée. Et que donc, nous, ça sorte de notre charge. Et c'est ce qu'on veut. De toute façon, c'est ce qui se fera à terme. On ne pourra pas assumer. Et que pour le reste, on assume avec les restes à réaliser, avec les ventes. Alors, je disais tout à l'heure, on a essayé de les faire. Il y a eu des choses qui... Mais on se rend compte que depuis, les choses évoluent aussi très vite dans l'autre sens. Le 12 juillet, quand on a fait l'adjudication pour les deux bâtiments, infructueux, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Entre le 15 juillet et puis fin août, on aurait vendu 5 fois le bâtiment de la rue du Château, puisqu'on avait plusieurs offres et hauteurs, une dont une qu'on a retenue l'an dernier. Donc ce bâtiment, il est vendu, hein. Ça y est, on a à hauteur de 112 000. On relance une adjudication pour rue Bellevue, donc que j'ai vu avec le notaire, qui aura lieu le 22 octobre. Et puis on a décidé donc...
Pardon, pour quel bâtiment?
Rue de Bellevue. Et donc on a décidé de vendre un autre bâtiment, après y avoir discuté. C'est le Café Pointu, parce que c'est un bâtiment qui abritait dans le temps l'office du tourisme.
Ça, c'est tout ce qui a été voté la semaine dernière.
C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais le fruit de ça, si vous voulez, je m'explique, parce que le fruit de cette session va nous permettre aussi de toucher 220 000 de subventions que la Cour des comptes a bien identifié et a bien mis dans le budget, mais qu'on ne peut pas toucher pour l'instant parce qu'il faut d'abord qu'on avance l'argent. Donc si vous voulez, globalement...
Je ne comprends pas trop. Toucher les subventions par rapport à ça.
Par rapport à des choses qu'on a déjà des...
Pas rapport aux ventes.
C'est ce qu'on appelle les restes à réaliser.
Oui, c'est pas des subventions, c'est des restes à réaliser.
Alors attendez, il y a deux choses.
C'est des factures qui restent à payer.
Il y a des factures qui restent à payer sur des investissements qu'on a faits, à hauteur de à peine 500 000 euros. Sur ces investissements-là, on a des subventions qui nous ont été accordées.
D'accord, ok. C'est...
Mais pour les toucher, il faut qu'on avance
l'argent.
L'argent. Donc c'est en vendant ces biens-là, ça va nous permettre de...
je vous écoute.
Non, mais il faut que ça soit clair, parce que...
Évidemment.
Voilà. En avançant, en récupérant cette trésorerie, ça va nous permettre de payer les factures qui nous restent. Et donc, factures payées, ça veut dire qu'on va pouvoir demander les subventions qui vont avec. Donc, en gros,
Sur quel projet, ces subventions?
Alors, c'était sur la rue Saint-Roch, sur l'aménagement de la rue Saint-Roch, sur le parking, sur un certain nombre de choses qui ont été réalisées.
Et là, c'est les fameux délais de 2 ans avant de les percevoir Non, c'est pas possible.
Non, les délais de 2 ans, c'est la TVA.
C'est TVA.
Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que là, je parle uniquement du paiement des factures qui restent en cours, donc du reste à réaliser, ce qu'on appelle le reste à réaliser, et du reste à charge pour la commune.
Là, vous avez un reste à réaliser sur un certain nombre de projets qui s'élève à peu près à 500 000.
À peu près.
Et
à peine 500
000. Et 220 000 euros de subvention.
Alors, 220 000 plus la vente des trois bâtiments. Donc, il y en a déjà un qui est vendu, 112 000. L'autre, à 120 000, j'espère qu'il sera vendu, mais imaginons qu'il soit vendu à ce minimum-là, plus 100 000, ça vous fait 340 000, plus les 220 000 de subventions qui, elles, sont accordées. On voit que ça couvre le...
Ça vous escomptez les percevoir à quelle échéance
C'est là où on a un dilemme, c'est que la Cour des comptes dit tant que c'est pas fait, nous, on ne les prend pas en compte. Et
tant que le reste est réalisé de 500 000...
Tant que c'est pas vendu. Tant que ce n'est pas vendu, elle dit, on ne peut pas les prendre en compte pour l'appurement des restes à réaliser.
Tant que ce n'est pas vendu, les
bâtiments.
Les cessions de bâtiments.
D'accord, parce que la vente de ces bâtiments permettra de payer ce reste à réaliser, qui permettra
d'obtenir les subventions.
Entre le fruit des cessions plus les subventions qu'on touchera, puisque là, du coup, on aura à payer, ça va couvrir l'ensemble
du reste à réaliser.
Oui, mais d'accord. Sauf que ces subventions, vous ne les toucherez qu'après avoir remboursé le reste à réaliser.
Il va falloir un petit délai. C'est pour ça qu'on a demandé d'avoir un temps. Parce que ça, ce n'est pas des subventions qu'on va demander. C'est des subventions qui nous sont déjà notifiées. Donc, dès qu'on peut prouver
donc, qu'on a payé.
Il y a un système, un protocole, on demande à la perception de nous signer comme quand on a bien payé cette facture-là. Et donc, au fur et à mesure, les subventions, alors on ne touchera pas tout d'un seul coup, ça va se faire en plusieurs fois, mais ça va nous recréer. Ça, si on avait pu le faire dès 2021, je dirais, si on avait tout vendu, l'idéal, on avait tout vendu en 2021, on ne serait pas aujourd'hui dans cette situation.
Donc du coup, si les choses vont très très bien d'ici la fin de l'année, ça peut être possible,
comme on espère, pour les prochaines on espère. Ou... Voilà, et en tous les cas, on a pris les décisions.
En fait, ces trois ventes-là
conditionnent
le reste.
Et puis, pour le reste des charges, les 400 et quelques mille, c'est plutôt le reste du bâtiment, l'Odyssée. Alors, il y a deux choses. Il y a l'Odyssée, mais il n'y a pas que l'Odyssée, parce qu'il y a aussi... là, on est en désaccord, mais la Cour des comptes a pris. On a fait un lotissement, donc avec 9 lots. La Garenne. Et donc, pour la viabilisation, pour l'aménagement du terrain, la commune a avancé au budget annexe du lotissement les frais. Donc, on avait à l'époque 150 000 euros à peu près de frais de viabilisation. Et donc, le système veut que, comme c'est un budget annexe, la collectivité avance cet argent-là, et puis après, au fur et à mesure des ventes des terrains, les ventes de terrains sont affectées au budget annexe, et le budget annexe, à ce moment-là, rembourse au fur et à mesure. Donc nous, il reste une centaine de mille d'euros, puisqu'on a vendu 5 terrains sur les 9, il reste une centaine de mille euros, mais nous, on l'a considéré comme une avance, comme un prêt qu'on avait fait. La Cour des comptes nous dit non, vous n'êtes pas sûr de vendre tous vos terrains tout de suite, donc on vous les met en charge.
Et puis un budget annexe, c'est pas un budget principal.
Ah mais non. Donc il faut, budget annexe, il faut que ça rentre pour qu'il puisse rembourser après le budget principal. Donc voilà, on est un peu à un dilemme. Donc c'est sur les 400 et quelques mille, il y a ces 100 000, mais qui vont nous revenir de toute façon au fur et à mesure qu'on va vendre. Et puis il y a le reste de l'Odyssée, pour lequel on est en négociation là avec Mobilier Habitat. On devrait avoir, j'espère, en tous les cas, on nous avait annoncé des réponses pour le mois de septembre. Donc c'est vrai que juillet-août, la période n'était pas... Enfin, forcément la plus judicieuse, pour vous, il ne se passe pas grand-chose dans ces périodes-là. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on avait...
Concrètement, pour l'Odyssée, ça prendrait quelle forme, cette solution?
Alors justement, on attend pour l'instant, je ne peux pas vous dire quelle forme. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce bâtiment-là, parce que c'est du logement, encore une fois, donc la commune, pour revenir à ce que je disais au départ, la collectivité n'a pas forcément... vocation à être bailleur.
Mais c'est pas notre métier,
c'est pas notre vocation. Qu'on encourage, parce qu'à l'époque, depuis maintenant plusieurs années, les bailleurs n'étaient plus sur nos secteurs. Donc à un moment donné, si on voulait développer du logement social, entre guillemets, sur nos communes, il fallait le faire sur des projets communaux, parce que sinon, on n'avait pas de logement, et donc pas de logement, ça veut dire pas de jeunes qui s'installent, pas d'habitants. Ça veut dire, vous voyez, s'il n'y a pas d'habitants, pas de commerce, voilà, c'est un peu le nerf de tout ça. Donc effectivement, on s'est mis sur ce terrain-là. Aujourd'hui, il semblerait que les bailleurs aient revu un peu leur position et soient un peu mieux disposés à revenir sur nos territoires. Donc du coup, sachant ça, on a entamé des discussions avec Mobilier Habitat pour voir. L'idée, c'est qu'eux prennent le relais de ce qu'on a déjà fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent le bâtiment comme il est là, ils finissent le bâtiment, ils le louent et voilà, ils le gèrent. Et nous, ça sort de nos charges.
La propriété serait transférée.
Ah oui,
c'est l'avance.
Oui, ou alors je pense pas, c'est pas des philanthropes non plus.
Non, mais parfois il y a des arrangements, c'est-à-dire pendant tant d'années, vous ne percevez pas les loyers, par exemple.
Mais ça peut être ça. On peut imaginer tout. Il peut aussi avoir un système de rachat du bâtiment. Il peut y avoir. Pour l'instant, on n'a pas.
C'est les différents scénarios, justement.
C'est les différents scénarios qui devraient nous être présentés dans le mois de septembre. Donc on les attend, et puis en fonction des scénarios qui nous sont présentés, on choisira celle qui est le plus... Mais l'idée, encore une fois, premier, c'est que, donc, régler reste à réaliser, avec les sessions, et Et puis sortir cette charge qui nous est imputée, hein, puisque la Cour des comptes... Alors je peux comprendre, hein. Encore une fois, je ne juge pas la Cour des comptes, elle a son rôle. Et, bon, c'est rare qu'elle fasse des rapports positifs, mais c'est un constat qu'on peut faire. Mais elle apprend les choses factuellement. Donc c'est, ben vous avez un marché public, il vous reste ça à payer, donc vous avez tant à mettre sur une butte. Donc ça c'est pour donner. C'est pour ça qu'on avait demandé nous un délai, parce qu'on savait bien que ben, une vente vous pouvez la décider un jour, mais c'est pas pour ça qu'elle va se réaliser le lendemain. Donc,
c'est ce que vous a reproché la CRC, c'est-à-dire de vous projeter avec des rentrées d'argent hypothétiques.
Ben oui, mais sauf qu'elles sont hypothétiques. Vous voyez, au mois de juillet, on n'avait rien. Puis fin juillet, on avait 4 offres pour un bâtiment. Donc moi, je encore une fois, c'est comment quand je dis ils nous ont reproché, oui, parce que oui, ce factuel, c'est vous avez l'argent, on le prend en compte, vous n'avez pas l'argent, on ne le prend pas en compte. D'ailleurs, ils ont mis dans le budget, alors c'est là où on revient un peu à tout ce qui a été dit et tout ce qui a été exposé en chiffres, tout ça, parce que y a une situation qui est déjà compliquée, hein, mais qu'on essaie de trouver. Pour lequel, en tous les cas, nous, on avait des solutions. Et si c'est ce, si j'espère bien qu'on va pouvoir arriver à trouver. Ben, en tous les cas, on a tout mis. Puis bon, il y a déjà déjà une vente qui a été faite, une deuxième qui. Après, il nous reste le troisième bâtiment si ces ventes sont faites. Mais là où je suis, on peut avoir des avis. Alors, je ne parle pas de la Cour régionale des comptes, hein, parce qu'elle, elle est dans son rôle. Bon, je parle des gens qui aujourd'hui s'expriment ou animent un certain nombre de choix. Nous, on a toujours dit qu'une opposition, des avis divergents, c'est la démocratie, c'est quelque chose de tout à fait sain. Et que, au contraire, il faut que ça existe. C'est jamais sain, c'est jamais bien d'être tout seul et que d'avoir un sondage. Par contre, là où j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on s'appuie sur des analyses et qu'on donne de la désinformation, des choses fausses. Alors, c'est vrai que les principaux animateurs de cette mouvance, en tous les cas qui se veut être force d'opposition, ils n'étaient pas là avant, ils sont arrivés en 2020 pour les principaux animateurs. Donc eux, la vision qu'ils ont, c'est la vision depuis 2020 de la commune. Donc forcément, s'ils n'ont pas la vision de ce qui s'est passé 5 ans avant, ah, évidemment, ça change les analyses. Ça, c'est un élément. Mais là où je ne peux pas être d'accord, c'est quand ils annoncent des choses qui sont complètement fausses. Je vais prendre quelques exemples de chiffres qui ont été avancés ou qui ont été écrits et que vous avez dû avoir, vous, en termes de compte-rendu. Par exemple, on nous dit la dette est à plus de 2 millions depuis 2018. Faux. La dette de la commune, elle a été à 2,7 millions en 2019, ben au moment du pic des investissements, c'est évident. Mais depuis, on n'a pas fait de nouveaux emprunts et on a remboursé régulièrement. Aujourd'hui, à la fin de l'année, au 31 décembre, mais pratiquement aujourd'hui, puisque toutes les annuités sont remboursées, les dernières. Au 31 décembre, la dette de la commune sera à 1,5 million. Donc ça veut dire qu'on a quasiment remboursé, pas la moitié, mais presque, sur deux, on est passé de 2,7 millions à 1,5 million. Donc déjà, quand on annonce que la dette de la commune est à plus de 2 millions, c'est faux.
C'était en 2019, ça, les 2,7 millions
Oui, alors attendez, j'ai la courbe. Alors tout ce que je dis là, j'ai les documents, hein, parce que...
Et la CRC le disait aussi.
Et les CRC les a eu. Donc ce n'est pas des choses qu'on... Quand on parle des frais de fonctionnement qui seraient passés depuis les années 2000, frais de fonctionnement de la commune, qui serait passé de 600 000, qui était de 600 000 dans les années 2000, et qu'on a augmenté pour arriver aujourd'hui à 1,3 million. C'est les chiffres qui donnent. Faux encore. Les frais de fonctionnement, on les a retrouvés, j'ai le document là. C'est le document de la commission des finances de l'époque, hein. C'est pas nous qui étions aux affaires, c'était là, même pas mon prédécesseur, c'était encore celui d'avant. Les dépenses de fonctionnement du budget 2000 étaient de 6 841 961 francs, ce qui, si on les traduit en euros aujourd'hui, c'était 1 043 050. Après, il y a des choses qui sont plus embêtantes et plus vicieuses ou pernicieuses, je dirais. On nous dit la commune. Alors, je le dis parce que on s'appuie pour donner ces chiffres-là sur des compétences. C'est-à-dire que dans le groupe, il y a quelqu'un qui est DG dans une petite commune, qui se présente comme tel et qui dit « j'ai les compétences techniques, j'ai accès à tous les documents ». Donc, je peux voir tout ce qui se passe et prendre les chiffres, les réalités. OK. Quand on nous dit qu'on dépense 1700 euros par an pour les chocolats pour le personnel. Oui, on offre un petit ballotin de chocolat à notre personnel tous les ans. Il y en a pour à peine 600 euros. J'ai la facture ici. Quand on nous dit, parce qu'on a lu sur le grand livre, hein, ce qui est en fait le livre de comptabilité de la commune, où tout est retranscrit au niveau on nous dit qu'il faut supprimer le portable des élus, les portables des élus. Il y a un portable pour les élus. Un portable pour les élus, pour le portable d'astreinte. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on doit être joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qu'une personne ne peut pas, donc on a effectivement, et on doit communiquer un numéro où on peut joindre en permanence, donc on a un portable pour les élus qui coûte 32 euros par mois, parce qu'il y a un abonnement Internet pour pouvoir échanger avec les services, 32 euros par mois, et c'est le seul portable pour les élus. Alors effectivement, on a bien une facture d'Orange, qui fait état, et sur le grand compte, c'est marqué service technique élu. Il y a les deux. Mais sur 6 portables, il y en a 5 pour les services techniques et 1 pour les élus. Ça, on a j'ai les factures Orange qui sont là. On peut le prouver tous les. Et ça, c'est là où je m'interroge. Je me dis, bon, quelqu'un de compétent, ok. Ben, si, il est plus compétent que moi, à la limite, pour lire les documents du grand livre. Hein. Parce que moi, je vous avoue que ce n'est pas quelque chose sur lequel je vais tous les jours. Ensuite, on nous dit, alors, l'assurance des véhicules. On nous reproche que pour un véhicule, en donnant le numéro d'immatriculation, on paierait 8000 euros par an d'assurance. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais déjà, payer 8000 euros d'assurance pour un véhicule, j'ai dit l'autre jour au conseil. J'ai dit, qui d'entre nous, à titre individuel, il faut se sauver de cette compagnie d'assurance, parce que là, ça devient... Alors, effectivement, sur le grand compte, il y a l'aide descriptif. Mais sauf qu'il y a une erreur de lecture, point qu'on puisse dire. Parce qu'on a pris les échéances trimestrielles qui sont à peu près de 2088,15 € par trimestre. Mais si on relit le truc, c'est de la multirisque. La multirisque, c'est pas de l'assurance auto. Et en plus, c'est même pas chez le concessionnaire. Et le pire, c'est qu'on a passé un marché...
Ça, c'est pas le même assureur. Voilà.
Oui, mais c'est pas le même assureur, mais on a passé un marché
public, oui.
Public avec pour réattribuer nos véhicules, ils sont assurés à Groupama, pas chez Allianz. Mmh. Alors que sur le grand livre, c'est marqué « Cotisation multirisque, Allianz ». Donc quelqu'un qui veut être factuel, ou en tous les cas... Voilà, c'est des documents qu'il a. Hein, c'est pas,
on a bien compris le sens.
C'est pas des documents... Oui, mais c'est important, ouais, mais parce que les gens, ils ont entendu ça. La population a entendu ça. Mmh. Population, vous dites à un DG, quelqu'un qui a les compétences, qui se vend comme ça, puisque c'est comme ça qu'il se présente. Hein. Vous avez fait ça.
C'est également relayé dans un blog,
relayé dans la presse. Donc à un moment donné, moi je comprends, hein, je suis quelqu'un de lambda, je ne connais pas trop le fonctionnement. Je me dis, ben, si on en plus, c'est un DG, il connaît bien, il a ses compétences, il a ses... il avance des chiffres comme ça, il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Quoi. Mais le pire, c'est que pour revenir aux assurances, c'est que quand on a passé ce marché, il y a eu une délibération de prise. Et qu'un des animateurs qui est dans l'opposition a voté. Donc il sait très bien, lui, il a la délibération, il a le compte-rendu, il sait que les assurances auto, ce n'est pas chez Allianz, c'est chez Groupama. Et pour tout vous dire, pour l'ensemble du parc de la commune, on paye
1745 euros
pour l'ensemble du parc. Donc on est loin des 8000 euros pour un véhicule. Autre exemple que je peux prendre, c'est la cantine. On nous dit aujourd'hui, c'est pas normal que les Guémenois payent deux fois. Enfin, c'est comme ça qu'ils le disent. Les Guémenois payent deux fois la cantine. Ils payent une fois en tant que parent à hauteur de 4 euros et une fois sur leurs impôts parce que ça couvre pas le coût de revient d'un repas qui, d'après leur calcul, je sais pas où ils ont fait, revient entre 7 et 10 euros à la commune. Alors, il faut savoir que le prix de revient d'un repas chez nous, il est de à peine il est 6,90. Donc, il est en dessous des 7 euros. Et que les gens, les Guémenois, ne payent pas deux fois. Ne payent pas deux fois. On avait proposé cette mesure-là de faire un prix différencié, d'ailleurs, pour les communes extérieures, parce que c'est vrai qu'on s'était dit que c'était, on était les seuls à assumer ces charges-là. Et à l'époque, on avait proposé une délibération pour faire des prix différenciés entre les habitants de Guémenée. Monsieur Pisky, pour ne pas le citer, qui est donc, il avait voté contre chez la délibération-là. Aujourd'hui, on nous dit que c'est ce qu'il faut faire, le même. Et en plus, en nous disant, les Guémenois sont assez injustes, ils payent deux fois. C'est vrai que quand vous êtes Guémenois et que vous ne savez pas, vous vous dites, mais pourquoi je paierais pour tout ça? Alors que c'est faux. D'abord... Les 85 pour, entre 85 et 90% des parents d'élèves, tout confondus, où qu'ils habitent, qui fréquentent les écoles de Guémenée, aujourd'hui, ils payent 1 euro la cantine, puisqu'on a adhéré au service proposé par l'État pour 1 euro. Et on est compensé par l'État jusqu'à 4 euros. Si on répond aux normes de circuit court et tout ça. Donc ça fait pratiquement 5 euros. Alors effectivement, il y a un delta qui est payé par la commune à peine 2 euros, qui est payé par l'ensemble. Mais les Guémenois ne payent pas deux fois. Ils payent 1 euro sur un coût de revient à 6 et quelques. Alors 1 euro plus, allez, à la limite, les 2 euros qui sont payés par les impôts, par le budget de la collectivité, ça vous fait 3 euros. Donc ça fait la moitié, même pas la moitié du prix qui revient de la cantine. Donc ils ne payent pas deux fois. Donc voilà, c'est des choses aussi évidentes que ça, que j'ai du mal à comprendre. Après, il y a on nous dit que les terrasses qui ont été montées sur l'espace public, c'est à la charge des communes. Mais ça ne coûte rien à la commune. Là où on peut discuter, c'est qu'on le fait gratuitement et qu'on ne fait pas payer... On ne demande pas de redevance. Donc peut-être que là, on pourrait dire c'est un manque à gagner pour la commune. Pourquoi pas? Mais dire que c'est à la charge des communes et qu'en plus, il faut faire des places de parking sur l'impôt, non. Et après, le dernier exemple que je pourrais prendre, c'est les conventions, mais ça, j'en ai déjà parlé avec l'EPF, puisque là, on est en train de nous mettre... dans les conventions antérieures, ils n'en parlent pas trop, mais quoique ils parlent des bradages des bâtiments, mais on parle de l'ancien hôpital, avec lequel, effectivement, on a signé. J'ai expliqué au conseil municipal, dernier, même ce précédent, qu'effectivement, une convention qui est passée, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une délibération, qui est passée en conseil municipal. C'était dans le cadre de l'accord et de la bataille pour l'hôpital et pour pouvoir équilibrer. L'ARS avait demandé à ce qu'on valorise le site de l'ancien hôpital. Et on s'était entendu, avec estimation des domaines et avec l'ARS, sur un prix de 1 million d'euros. Donc on a signé avec l'EPF pour bénéficier aussi et permettre à l'hôpital d'équilibrer son budget. Et de, on avait vu avec l'EPF, il faut faire une convention pour que l'EPF rachète ce site-là. Maintenant, les portages sont passés non plus de 5, mais à 7 ans, ils peuvent aller jusqu'à 10 ans sur des projets complexes. Donc on peut imaginer que ça peut être assimilé à un projet complexe. Ce laps de temps étant... nous étant donné, pour pouvoir trouver des porteurs de projets ou des choses comme ça, de façon... Mais l'idée, c'est surtout pas que cet argent-là, ce poids-là, repose sur les... sur les charges de la commune. D'ailleurs, à tel point, c'est que sur ces 1 million, il y en a pratiquement la moitié qui ont déjà été trouvés, puisqu'il y a une... L'ancienne masse a été vendue à la communauté de communes pour 435 000 euros. Et donc... sur les 1 million, il reste 565 000. Alors, ils prennent un chiffre de 700 000 parce que l'EPF a dit oui, mais en attendant, il y aura quelques travaux d'entretien ou de gardiennage à faire. Donc, on va se mettre une réserve et on va apporter ça à 700 000. Mais l'idée, c'est pas du tout que ces 700 000 ils soient à Charleville-Mézières, c'est aussi de permettre. D'ailleurs, on y travaille très activement avec tout un tas de partenaires pour trouver. Et il y a quelques pistes, encore une fois. Bon, après, il y avait un projet qui était bien avancé, mais qui a capoté au dernier moment. Donc, c'est vrai qu'on avait privilégié ce projet-là et on y comptait beaucoup, mais bon, il n'a pas été au bout. Encore une fois, voilà. Ça, c'est, il faut le dire tel que c'est. Et ces conventions, ces explications, tout ça ont été bien données lors des conseils, lors des différentes choses. Donc, soit, quand on met... Moi, je me dis, je me pose la question. Je me dis, quand on balance des informations comme ça, qui sont fausses, et qu'en plus, on les fait entériner par quelqu'un qui a soi-disant les compétences, qui est donc... qu'on ne peut pas remettre en cause, puisqu'il sait, il connaît, il a accès à tous les documents et tout ça. Je me dis, bon, moi je ne remets pas en cause les compétences, hein, ça c'est pas mon sujet. Hein. Par contre, je me pose la question, est-ce que c'est de la malveillance? Parce que quand on le dit au conseil municipal encore pour l'histoire de l'assurance, ces personnes-là étaient dans la salle, quand on a expliqué que ce n'était pas 8000 euros par an et qu'il y avait... On me certifiait que c'était... Alors, effectivement, il y a des... Alors, c'est des transferts de trucs Excel. Bon, effectivement, il y a des trucs, c'est marqué Masterben, Mairie, c'est à France Service et tout. Mais quand on regarde, c'est bien marqué cotisation multirisque, commune, 2000... c'est Alliance. Et nous, les voitures, elles ne sont pas chez Alliance, elles sont chez Groupama. Donc, quelqu'un qui a des compétences, soi-disant, et qui est... Non, ça, c'est, ça saute aux yeux, quoi. Ça saute aux yeux, il n'y a pas de raison.
Soit c'est de la malveillance, soit...
Alors, je me dis, c'est soit grave, parce que c'est de la malveillance, et je trouve que c'est inutile aussi d'alerter, ou en tous les cas, je ne vois pas trop l'intérêt. Et puis, d'un autre côté, je me dis que c'est grave, parce que c'est des gens qui... Alors, ils l'ont annoncé, donc c'est tant mieux. Hein, apparemment, ils envisagent de d'être aux affaires dans peu de temps. S'ils analysent les chiffres comme ça, j'ai quelques craintes. Quant aux propositions qui sont faites ou qui sont avancées, moi j'en ai repris quelques-unes, pour là aussi dire, attendez, France Service, la maison France Service, on nous demande, alors il faut savoir que la maison France Service, quand on l'a montée, c'était sur proposition du sous-préfet de l'époque, Michael Doré. C'était une expérience nationale. Il devait y avoir 1000 maisons de service au public qui devaient être montées en France. 500 portées par la Poste et 500 par des collectivités. Connaissant notre projet de redynamisation, le sous-préfet m'a été venu me voir en me disant « Je pense que ça pourrait vous intéresser. » Ce qu'on a effectivement, ce que je lui ai confirmé. Mais son idée, c'était d'en monter 3 sur les 3 anciens chefs-lieux de canton du territoire de Romans-Vent. Le Fawel, Courin, ouais. Guémé. Il a réuni à cette occasion, je la fais courte parce que il a réuni à cette occasion les maires et le président de la communauté de communes pour leur proposer ça. Bon, il s'est avéré que on était les seuls à Guémé à répondre positivement à cette. À partir de là, le président de la communauté de communes à l'époque m'a dit si tu es tout seul à proposer, ça ne pourra pas être porté par la communauté de communes, donc il faudra que tu te débrouilles tout seul. qu'on a fait, ce qui nous a permis, entre autres, de sauver le bâtiment, parce que du coup, on a eu des aides pour le patrimoine, et donc on a fait d'une pierre deux coups. On a sauvé un bâtiment qui était en ruine, hein, qui s'écroulait, qui est aujourd'hui une des plus belles, sinon la plus belle maison à porche du Morbihan. Et puis, on a créé un service. Aujourd'hui, on a 25 opérateurs dedans, où tous les gens peuvent venir faire toutes leurs démarches et aller plébisciter. Je peux vous dire, ça vient de partout. Aujourd'hui, on nous dit, et la Cour des comptes dit la même chose, hein, il faut la redonner en gestion à France, à la communauté de communes, puisque depuis, la communauté de communes a pris une compétence pour une maison de France Service itinérante sur l'ensemble des autres communes. Moi, j'en ai discuté avec la présidente. Elle me dit, mais si on reprend, on le reprend dans le cadre de la maison itinérante. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir une ouverture à 42 heures, comme on a aujourd'hui, du lundi au samedi midi, ça sera, comme c'est à Gourin ou au Fawel, ça sera autour de 2 jours par semaine, ou par quinzaine, je ne sais même plus, mais au maximum. Donc c'est pas du tout le même service. Mais qui plus est, on nous prétexte ça en disant, ben, comme ça, vous ferez des économies. Ah ben, moi, je veux bien qu'on me prouve les économies, parce que la communauté de communes a déjà son personnel, donc elle ne reprendra pas le personnel qui est en poste, qui est du personnel titulaire de la commune, donc il faudra retrouver des postes dans le collégatoire en charge. Mais surtout, on perdrait tout ce qui est accompagnement de l'État pour le fonctionnement de ces maisons France Service, qui va en augmentant, puisque pour l'année prochaine, ça va être porté à 50 000 euros pour la partie France Service, auquel il faut qu'on rajoute 12 000 euros pour les titres, passeport et tout ça, ce qui fait en gros 62 000 euros, ce qui couvre à peu près les salaires des deux personnes qui y sont.
Donc quoi, les magistrats de la Chambre régionale des comptes lisent de travers ? Pourquoi
non, ils ne lisent pas de travers, mais ils ont vu que la partie... Parce qu'ils partent du principe que si on externalise, on les externalise tous, c'est-à-dire que la communauté de communes reprend le personnel, ouais. Et reprend tout. Sauf qu'il y a une...
Il leur manque des données.
Je pense qu'il leur manque des données. Et une des données principales, c'est qu'aujourd'hui, on a un fonctionnement au niveau de la communauté de communes. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil dans toutes les communautés de communes. Mais nous, on a eu ce qu'on appelle la CLEC, la Commission locale d'estimation des charges, qui a été mise en place au moment du transfert de la taxe professionnelle sur les intercommunalités. Et donc, il y a eu une estimation des recettes que n'avaient plus les communes, puisque ce n'est plus les communes qui touchent à la PAC. Et tous les ans, on a une compensation qui est redonnée par la communauté de communes pour les communes. Et sur cette compensation, tous les ans, quand il y a des transferts de compétences, en tous les cas pour nous, chaque fois qu'il y a des transferts de compétences, on analyse ce que ça coûtait à la commune sur les 3 années précédentes, et il déduit ça de la CLEC. Donc ça veut dire que si demain on redonnait la maison France Service, non seulement on perdrait les 62 000 euros qu'on a, mais la communauté...
C'est l'aide annuelle.
Oui, c'est l'aide annuelle. C'est 50 000 euros plus 12 000 pour les titres. Mais ça veut dire qu'on perdrait aussi, parce que la communauté de communes, en termes d'équité, elle ne pourrait pas faire autrement, hein, on perdrait, elle nous diminuerait la clé de... Des montants qu'on dépense aujourd'hui. Si vous prenez uniquement les 2 salaires, on perdrait encore entre 50 et 60 000 euros.
Plus. Donc vous dites qu'il n'y a pas d'économie, il y a une perte de service.
Il y a
une perte de service, c'est clair.
Mais ça, c'est prouvé. Enfin, encore une fois, ça s'appuie sur des données. On peut les montrer quand on veut. Ce n'est pas des estimations ou des choses qui sortent de... Ensuite, le deuxième, on nous demande de supprimer un véhicule. Attendez, on a 3 véhicules à la commune, 2 camions bennes et un Kangoo qui est vieux, qui date de...
C'est un Kangoo
qui date de... Pour 5 agents, avec l'entretien. Nos véhicules, ils tournent tous les jours, ils en ont besoin. Comment voulez-vous que alors, on nous reproche après que les services techniques, on ne les veut pas assez, qu'ils ne sont pas à tel endroit ou tel... Si on leur enlève les voitures, les gars, s'il faut revenir à la brouette et à la pelle pour nettoyer les rues, ça ne va pas avancer beaucoup. Hein. plus.
Vous dites, là, actuellement, vous avez 3 véhicules pour 5 agents.
Oui, c'est ça. On a deux petits camions Ben et qu'on a en location, hein, qu'on a même pu acheter parce que. Et puis un Kangoo qui doit avoir plus de 15 ans maintenant, le Kangoo.
Oui, je crois que.
Pas loin.
Mais il était déjà là quand on a été.
C'était 2000, 2001, je crois.
Oui, c'est ça. Donc c'est un véhicule qui a.
La balayeuse, elle fait partie de ça de,
on n'a pas de balayeuse.
Vous n'avez pas un petit appareil?
Un glouton.
Un glouton, voilà. Ah oui, un glouton, c'est un équipement.
Non, ça ne fait pas partie
des véhicules. C'est
du matériel.
Non, c'est des équipements, comme on a le petit tracteur à tondeuse, on a des choses comme ça, mais ça, c'est plus des. Ensuite, bon, dans les autres, alors la cantine, j'en ai parlé, mais dans un autre ordre d'idée, c'est la facturation des équipements aux associations. Alors, suppression des subventions aux associations, ou en tous les cas, que pour des subventionnements. Que pour à hauteur du nombre de guéménois dans chaque association. Donc je m'imagine à la fête de l'Andouille, à la cavalcade ou des choses comme ça, comment on va faire la part des choses. Parce que là, c'est quand même un travail collectif par excellence. Et puis donc, ça veut dire que comment les clubs seraient bien en difficulté. Mais plus que ça, on nous rajoute maintenant en disant les équipements, ils sont à la charge de la commune, ce qui est vrai, ce qu'on a toujours dit.
Là, vous listez toutes les préconisations de la CRC. Hein, c'est ça?
Ah non, de l'opposition.
Non,
parce que là, celle-là, c'est, la CRC n'avait pas pris ça, supprimé les subventions, mais n'avait pas été plus loin. Pour 2024, hein, je trouve que c'était que pour 2024. Hein. Là, on va plus loin en disant, dans les propositions qui ont été faites publiquement, hein, c'est de dire il faut que les équipements. Il soit plus à la charge de la commune. Alors ça, sur le principe, je suis d'accord, qu'on soit aidé parce que c'est pas juste seule la commune de Gamay. Mais qu'on les refacture au club, ça veut dire que, par exemple, au prorata de leur durée d'utilisation. Ça veut dire que, pour prendre quelques exemples, le club de foot, par exemple, ça veut dire que c'est à peu près eux qui utilisent. Alors, il faudrait enlever les scolaires. Oui. Mais en gros, le stade de foot, il n'y a que le foot qui. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on facture au club de foot le montant des équipements. Je ne sais pas comment il ferait pour payer, hein. D'une part. Ça veut dire que demain, le club de foot, il se casse la figure. C'est la même chose avec le tennis de table, c'est la même chose avec le judo, c'est la même chose avec toutes les associations qu'on a. C'est des choses. Alors là, on est dans le populisme, je dirais, dans des propositions qui n'ont pas de sens, quoi. Qui ont du sens, parce que c'est juste que ce ne soit pas que Gamay qui paye. Et là, nous, on a fait une réunion il n'y a pas longtemps avec les clubs, où on avait invité les clubs sportifs, avec la région, avec le département, pour effectivement voir comment on pouvait être accompagné, comment on pouvait être aidé pour la gestion de ces équipements, qui sont intercommunaux pour nous. C'est intercommunaux, puisque ça concerne, on est les seuls à avoir ça sur un territoire autour. Qu'on soit aidé, oui, mais qu'on refacture au club, c'est utopique. Enfin, ça semble. Voilà. Donc, moi, je voulais remettre en place un peu ces choses-là. Je ne sais pas, je sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit.
Un certain nombre. Alors, juste pour être au clair, là, vous parliez de proposition de transfert de Maison France Service. Ça, c'est quoi? C'est la CRC ou c'est l'opposition?
Les deux.
C'est les deux.
Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par la CRC en préconisation et qui ont été reprises.
Oui, parce que grosso modo, c'était ça. Mais moi, j'ai plus tout le document de la CRC en tête, mais vu que ça se confond un peu, la suppression d'un des trois véhicules, ça, c'est la CRC.
Ah, ça, c'est l'opposition.
C'est uniquement l'opposition, c'est pas la CRC.
Non.
La suppression des subventions aux associations pour 2024, ça, c'était la CRC.
Oui, mais eux, ils vont plus loin, parce qu'ils disent que maintenant, il ne faut plus subventionner du tout les associations qu'au prorata du nombre de mois et de faire payer les équipements. Ouais.
Juste, parce que je suis désolé pour tout le monde, mais parce que moi, je suis pas très clair, mais il y a une somme de 900 livres, grosso modo, qui est identifiée par la CRC. Sur ces 900 000, vous en avez un peu plus de la moitié, enfin autour de 500 000. Ça, c'est tout c'est tout le reste à charge, et c'est là-dessus que vous allez batailler. Et pour répondre à ces 500 000, vous misez sur la vente de trois bâtiments.
Et plus les subventions.
Plus, oui, bien sûr, mais les subventions qui sont ouais. Après.
Il y a les deux, voilà. C'est on va, lié, on va l'avoir en deux fois.
Voilà, c'est ça. Non, mais il y a quand même. En attendant, il faut quand même verser les 120 000 voilà. Que vous aurez derrière.
Mais oui, mais les restes à réaliser, voilà, au lieu d'être fermés une fois, ils seront en deux fois.
Sur les bâtiments, il y en a trois. C'était le bâtiment de la rue du Château mm-hmm. à 112 000 mm-hmm. en vente.
112 200,
c'est ça.
Et vendu.
Qui est déjà vendu.
Oui, puisqu'on a, on a acté la vente au dernier conseil municipal.
Ah oui, pardon. Il y a le bâtiment de Bellevue à 120 000.
Mise à prix à 120
000. Mise à prix, c'est
adjudication. Par adjudication.
Adjudication qui aura lieu le mois de 22 octobre.
Et le café pointu, alors là, j'ai pas noté de...
150.
100. 100 000.
C'est 100 000. Ça, c'est adjudication aussi ?
Non.
Estimé à 100.
Donc, on a mis en prix de vente 100.
D'accord. Là, vous espérez que ces ventes puissent intervenir d'ici la fin de l'année. C'est,
Plus tôt ça sera, mieux ça sera.
D'accord. En attendant, parce que quel est le rôle de la préfecture par rapport à la gestion de la commune actuellement
Alors, le préfet a arrêté, c'est comme ça le terme, c'est le budget pour 2024. Jusqu'au 31 décembre 2024, donc, avec un certain nombre de mesures, suppression des indemnités des élus, des subventions, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ?
Elles ont été complètement supprimées ? C'était pas divisé par...
Non, c'était... Ben oui, mais divisé par deux, mais comment ils avaient payé jusqu'au mois de... Jusqu'au mois de juillet, et surtout, augmentation des impôts pour 2024. Et donc...
Rappelez-moi les taux.
Les taux, c'est 6 points, un peu plus de 6 points de plus pour le foncier pour bâti.
Foncier bâti, à peu près autant.
2 points pour la taxe d'habitation et à peu près autant pour le foncier non bâti. Mais le foncier non bâti, on a deux.
Oui, il n'y a rien, quasiment rien du tout.
Donc, ça, encore une fois, voilà.
Parce que l'idée, c'est que vous repreniez la main sur le budget de l'exercice 2025. Suivant. C'est pour 2025, ça c'est l'objectif.
C'est ça. Et que dès 2025, moi je le dis, hein, c'est que si les, enfin, en espérant que les mesures, hein, mais dès que ce sera possible, on reviendra sur ces taux-là pour les rabaisser à nouveau, pour les ramener.
Puisque là, ça c'est vous, votre engagement, c'est de revenir au taux antérieur.
Ah oui. De dire, ben ça y est, il est augmenté une fois, ben on va profiter de l'aubaine, et puis tous les ans, ben non. Alors j'ai entendu, c'est hier à la radio, j'entendais que, comment, c'est Orvault, je crois, pour le site de la commune.
J'ai vu un article.
Orvault, ils sont à 21% d'augmentation, mais là, c'est la volonté des élus, là.
C'est dû.
C'est dû, ben, au, comment. Alors c'est vrai que nous, hormis nous cette situation, on a aussi. Pâtit tout ça, hein. Les augmentations du point d'indice, l'énergie, enfin, l'énergie, par exemple, pour donner une idée, l'énergie pour la commune, bien qu'on ait passé un marché global avec le département, avec Morbihan Habitat,
Morbihan Énergie,
c'est presque 50 000 euros de plus sur l'année.
Comment ça se passe au niveau du calendrier ? Il y a des points d'étape qui sont réalisés, je suppose.
Pour l'instant, il n'y a pas eu. Enfin, en tous les cas, on n'a pas d'échéancier, on n'a pas de point d'étape. Ils vont regarder au compte administratif.
Point d'étape, quand vous dites. Pas là,
oui. Parce que j'imagine que normalement, c'est la période où on commence déjà à préparer le budget, dans l'objectif de le voter en début d'année prochaine.
Donc, on le vote en général au mois d'avril.
Ah bon, ouais. C'est avril. Ouais, c'est vrai que ça varie d'une commune à l'autre. Bah, avril, ça...
bah, on a jusqu'au 15 avril pour le.
Oui, c'est ça, vous êtes dans les derniers quand même, en avril.
Je crois que dans le coin, on est à peu près tous pareils.
Ouais, je crois
par
que ça
contre, les taux, on peut les voter avant.
D'accord.
Ils peuvent être dissociés. Jusqu'à présent, on faisait tout parce que c'était plus cohérent. Mais on s'interdit pas si la situation. De voter les taux avant pour prouver qu'on reviendra sur les taux.
D'accord, mais l'objectif, c'est bien de voter le budget en avril 2025.
C'est ça. Ouais.
Ouais. quand même un mot, parce que malgré tout, vous le dites, vous aviez identifié qu'à un moment donné, il y aura un problème de trésorerie dans le cycle des remboursements. Et derrière, il y a toute cette situation-là, avec les impondérables que vous avez décrits, etc. Avec le recul, est-ce que vous dites quand même, on a à un moment donné pris une décision qu'on n'aurait pas dû prendre? Est-ce qu'on n'a pas été un peu trop ambitieux? Est-ce qu'il y a eu une prise de risque qui a été mal anticipée? Quel regard vous portez?
Pour moi, non, parce qu'il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Dans le contexte de l'époque, non, on n'a pas pris... simplement, il y a des choses qui ont évolué, ce que j'ai dit au tout départ. Encore une fois, on n'a pas attendu le dernier moment pour prendre des décisions, puisque dès 2021, donc ça fait 5 ans presque, on avait bien identifié ça. Sauf qu'après, ça, dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme on l'imagine. Il peut y avoir des amours. Donc moi, je ne regrette pas du tout. Je pense pas qu'avec mes adjoints, je regrette pas du tout ce qu'on a fait, si c'est la question derrière, ce qu'on a fait. Ce qu'on peut nous reprocher, c'est effectivement, c'est qu'on avait anticipé sur des choses qu'on pensait qui pouvaient se régler assez vite. Mais par exemple, quand je veux dire, pour reprendre l'exemple de la rue du Château, quand le boulanger a brûlé début août, qu'il était dans la panade parce qu'il n'avait pas d'un truc, qu'on ne s'est pas posé 100 fois la question, quoi. On s'est dit, bon, il faut sauver d'abord la boulangerie en centre-ville. C'est toujours dans l'intérêt de la ville, hein, c'est toujours dans l'intérêt de la commune et de son développement. On s'est d'abord mis ça, puis on s'est dit, ben tant pis, la vente... Alors on ne savait pas combien de temps ça allait durer, les travaux et tout ça, donc il y a plein de choses qui sont... Donc, moi, nous, on ne regrette pas, au contraire... Sauf que, ben voilà, on avait, qu'on peut regretter, c'est qu'on ne nous ait pas laissé le temps de mettre en place les mesures qu'on avait préconisées, dès le budget, d'ailleurs cette année, hein, dès le budget, dès le mois d'avril 2024, au budget, on avait présenté ces propositions-là. Bon, voilà, après, dont acte, hein, mais... si on avait fait des erreurs flagrantes de gestion, d'analyse, des choses comme ça. Non, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ben, c'est un décalage, c'est-à-dire ce qu'on avait prévu qu'il soit fait, même en début d'année cette année, on aurait pu, même si ça avait été fait en début d'année cette année, ben, on ne serait pas aujourd'hui dans cette situation-là. Donc, c'est vraiment un décalage dans le temps, et de laisser un peu de temps pour que les choses se fassent.
Et peut-être de ne pas avoir complètement suffisamment sécurisé l'ensemble des recettes. Parce qu'il y a une
alors, on aurait, était... alors, je vais pour répondre à votre question, on aurait pu choisir un autre biais. Ouais. On aurait pu choisir un autre biais, c'est qu'on aurait pu faire un emprunt pour couvrir, si c'est ça votre...
C'est plus classique comme...
Ou on aurait pu inscrire, qui se faisait dans le temps, un emprunt qu'on ne réaliserait jamais. On aurait pu faire ça. On n'a pas voulu le faire dans un souci de transparence. Parce que soit on met un emprunt, et quand on est arrivé à la commune, on avait ce problème-là. On avait
un emprunt.
Je l'avais dénoncé à l'époque, d'ailleurs, quand j'étais adjoint. Et c'est ce qui m'a valu d'être un peu en discorde avec mon prédécesseur. C'est que effectivement, il y avait des investissements qui étaient faits, et pour équilibrer, on mettait un emprunt de 600 000 qu'on ne réalisait pas. C'est vrai que ça peut être un budget en équilibre. Sauf que c'était pas équilibré du tout, puisque de toute façon, on ne le réalisait pas. Donc il fallait bien, à un moment donné, et c'était des travaux réalisés. Donc ça, on a les budgets, donc je peux le prouver. Je l'avais dit à l'époque, si vous retrouvez les écrits que j'avais faits, à l'époque, c'était dire. Il y en a qui vont reprocher ça, par rapport à... qui sont toujours restés sur cette... qui m'ont... assimilé à la traîtrise un peu d'avoir remis en cause ces choses-là à l'époque. Bon, et voilà, c'est aujourd'hui on retrouve ces mêmes personnes avec des alliances de circonstances, je veux dire, entre ceux qui sont arrivés après 2020, qui n'ont pas une vision des choses, peut-être, et puis ceux-là. Mais oui, on aurait pu faire ça. Il y aurait pu y avoir d'autres solutions. Donc, si on nous reprocha, ok, mais nous on a joué la transparence, on n'a pas voulu. On s'est dit, plutôt que de faire un emprunt, vaut mieux vendre des bâtiments. Quand je pense à ça, les bâtiments dont on parle, c'est que non seulement on les vend, donc ça va ramener de la trésorerie, mais ça va faire des économies à la commune. Hein. Parce qu'un bâtiment comme Bellevue, ou comme la taxe foncière, l'entretien, tout ça, ça coûte. C'est pas des petites sommes.
Puis c'est des vieux bâtiments.
Et puis, quel intérêt? Alors que remis dans le privé, ça va être rénové, ça va être retrouvé une deuxième vie, hein, et du coup. Et donc, ça rapportera forcément indirectement à la commune, parce que ça va ramener de la nouvelle population, ça va ramener de l'activité. Donc, voilà, on est. Donc, oui, on aurait pu faire, effectivement, pour répondre à la question, on aurait pu faire autrement. Ouais.
Il y a eu quelques démissions au sein de la majorité, quand même.
Oui, on a deux personnes qui ont démissionné. Bon, je les regrette, moi, très, très honnêtement, je regrette en particulier une, parce que je pense que. Mais sur une, à mon avis, sur de l'incompréhension, hein, en tous les cas, et puis peut-être sur la pression aussi, je ne sais pas. En tous les cas, je ne sais pas les raisons. Hein, enfin, je connais les raisons, puisque comment elle nous l'a écrit. Donc, les raisons, c'était effectivement de dire la situation budgétaire, je pensais qu'elle était moins. Enfin, toujours pareil sur les déclarations de CRDT. Bon, je la regrette parce que c'était quelqu'un qui travaillait bien, avec qui on travaillait bien. Bon, moi, je n'en veux pas. Hein, j'en veux pas. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion d'en discuter de toute façon par rapport à ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a toute une campagne qui est menée depuis maintenant un peu plus d'un mois. Je crois il y a eu des tracts dans les.
Oui, ça fait un mois. Oui, un peu plus même. Ouais.
Pour appeler à la démission du maire.
Et alors, qu'est-ce que vous répondez ?
Je réponds tout simplement que démissionner, ça serait aujourd'hui, ça serait quelque chose d'assez. Ce serait une décision. C'est pas une décision que j'envisage, hein, d'une part. Puis je trouve que j'ai jamais fui devant mes responsabilités. Donc aujourd'hui, j'assume pleinement ce que je vous ai dit. Hein, voilà, et que le but, c'est effectivement de continuer le développement de la commune et pas de laisser. Ça serait la solution de facilité. Hein, je m'en vais, je démissionne du jour au lendemain, et puis je m'en vais, et puis je laisse le bébé aux autres. Non, c'est pas responsable comme attitude. Donc, c'est évident que c'est pas. Puis vous savez, moi, ils m'ont remis. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant qu'il y a comment. Je crois qu'il y a cette pétition, soi-disant, qui est en circulation. Donc, effectivement, on m'a remis au dernier conseil municipal, donc la semaine dernière, des courriers qui avaient été signés. Alors, j'en ai 28, hein. Je peux dire le nombre. J'en ai 28, mais je les ai séparés en deux. Alors, ils ont tous été faits assez vite le 12. 12-9,
le jour du conseil.
12-9, le jour du conseil, comme par hasard, le 11. Pourquoi pas, le 11. Mais sur la moitié, sur les 28 courriers que j'ai, il y en a la moitié, il y a des signatures, mais qui sont illisibles, donc on ne sait pas qui sont. Il y en a une petite moitié où effectivement, là, il y a les noms, il y a les adresses, et il y a même des gens de l'extérieur de Guémené, de Luherne, de. Taille d'autres communes, donc voilà.
Ça, c'était une lettre type pour vous demander votre démission.
Ah, c'est une lettre type qui a
avec une signature en bas.
Voilà, demander aux gens de signer, et puis voilà.
Et en mairie, vous avez reçu cette lettre
Elles ont été remises.
Non, ils me les ont remises le jour du conseil.
À l'issue du conseil.
Par exemple, il y a des fois des lettres qui sont signées de la même personne deux fois. Bon, après, il y en aura peut-être d'autres, hein. Mais moi, j'assume. Mais encore une fois, je suis prêt à débattre ou à m'assumer sur des choses factuelles, pourquoi je vous ai réunis aujourd'hui. Enfin, pourquoi c'était en réaction à ça, c'était de vous dire, ok, qu'on me dise, on ne devrait pas avoir trois véhicules, ou qu'on me dise, il ne faut pas donner de subventions aux associations. Ça, c'est des choix de gestion, c'est des choix politiques. Mais qu'on me dise, pour justifier de ça, sur des chiffres faux, là, on peut pas, enfin, je ne peux pas laisser passer, quoi. Puis laisser passer que... Alors, vous savez, il y avait déjà des tentatives. Il y a une fois, on m'a posé une question à un conseil, c'était l'année dernière, je crois. Pouvez-vous nous confirmer que la commune paye les voitures des élus?
Ça aussi,
c'est dans la...
C'est pas une question.
Pouvez-vous confirmer? Non, nos voitures, elles sont élues. Moi, vous voyez, les portables, j'ai mon portable, il est perso. Hein. Je pourrais fournir les... J'ai jamais eu un portable en tant que maire. Jamais.
Et jamais en disant un frais de représentation non plus.
Jamais non plus. Quand je vais à Paris, quand je vais à Rennes, quand je vais un peu partout, ça m'habite. Des fois, je pars, je couche à l'hôtel, je mange. Jamais j'ai fait de notes de frais à la commune. Jamais. Seul truc que j'ai fait, c'est effectivement des frais d'essence, parce que on a de nombreux déplacements quand on est élu, hein, comme des communes, départements. Voilà. Et c'est la seule chose que je me suis autorisé.
Est-ce que sur le budget de fonctionnement, vous allez aussi aller rechercher des économies? Il y a des
économies, on est en recherche en permanence, mais on essaye de trouver un équilibre entre les économies qu'on peut faire et le maintien des services, niveau de service. Parce que pour nous, il n'est pas... Si on s'est battu depuis 10 ans au niveau de la redynamisation pour amener tout ce qu'on a amené depuis 10 ans... C'est pas pour aujourd'hui tout casser. Donc, effectivement, des économies, à chaque fois qu'il y a des opportunités, on les saisit. Il y a des postes, par exemple, au dernier conseil, on nous a demandé de supprimer des postes qui étaient au tableau d'avancement parce que...
Des postes de
tableau d'effectif.
Oui, on a deux postes qui sont au tableau... Tableau des effectifs, pardon. Deux postes qu'on a laissés, mais qui ne sont pas pourvus. Parce que un poste d'ATSEM, puis un poste d'adjoint administratif, parce qu'on n'en avait pas besoin. Donc effectivement, quand les gens sont partis, on ne les a pas remplacés. C'est une forme d'économie. On a fait là, on est en train de travailler sur la téléphonie et sur Internet avec l'arrivée de la fibre. On est en train de renégocier tous nos contrats pour trouver des sources d'économie. On travaille avec Morbihan Énergie pour nos contrats d'énergie, pour faire en sorte d'avoir les meilleurs prix. À chaque fois, on essaye de trouver les opportunités de frais de diminution de frais de fonctionnement, bien sûr.
On a rempli nos Q-Fuel au moment où c'était le prix le plus bas.
Donc... Toutes les même sur des petites choses. Oui, vous voyez, les fuel, on l'a rempli mi-août, parce que c'était le moment où il était le moins favorable cet hiver, en plus. Mais qu'on nous propose encore des choses comme ça, moi je trouve que c'est malsain pour ceux qui... mais c'est mon avis, hein, après, c'est pas forcément partagé. Vous savez, c'est pas en dénigrant une ville comme on le fait en permanence en ce moment, en disant qu'elle est sale, que les gens sont pas bien, qu'on est en faillite, j'en passe tout ce qu'on entend. Hein. C'est pas en faisant des choses, en disant, en colportant des choses comme ça, qu'on va pouvoir mettre en valeur notre ville. Nous, on est là en tant qu'élus, c'est pour dynamiser, pour mettre en valeur notre ville, c'est pas pour la dénigrer. C'est pas le rôle d'un élu. Qu'on soit pas d'accord sur, et qu'encore une fois, on ait des divergences sur la gestion, sur des décisions, des choses comme ça, c'est tout à fait sain, je dirais même. Mais dénigrer, c'est comme à force de dire du mal de quelqu'un, vous allez finir par. La personne, elle va finir par être complètement. Et les gens, ça va finir par entrer dans les esprits, à force de répéter les choses. C'est ce qui se passe depuis 5 ans. C'est ce qu'on entend. C'est jamais de proposition, c'est que du dénigrement. Que ça. Alors, au bout d'un moment, bon, quand ça se passe, mais là, ça prend une ampleur telle que... non, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Les gens qui habitent Guémené ou qui viennent... Moi, je suis fier quand les gens, ils viennent de l'extérieur, qui me disent, qu'est-ce que vous avez une belle ville, qui me disent, on est bien... Ou on a choisi de venir habiter Guémené parce qu'il y a tout ce qu'il faut et qu'on s'y sent bien. Ça, oui. Et moi, je ne peux que... Mais demain, on va faire fuir tout le monde à force de dénigrer les choses.
Tout à l'heure, vous parliez de populisme.
À un moment donné, ça, j'appelle ça, oui, quand vous allez toujours dans le sens un peu du... Ouais, en entendant... quand vous dites, bah oui, il faut que les, faut pas que les Guémenois payent deux fois. Oui, bah oui, mais alors qu'ils les payent pas deux fois. Mais ça veut dire que vous accréditez les paies. Et quand vous dites qu'il faut plus qu'ils payent deux fois, c'est quelquefois, enfin moi j'appelle ça du populisme. C'est-à-dire, on sait bien que tout le monde va être d'accord pour pas payer deux fois. Mais le problème, c'est que les gens, ils payent pas deux fois. Quand on vous dit les associations, il faut plus que ça soit aux Guémenois. Je prends l'école de foot, il y a 8 gamins sur 160. Ça veut dire que la subvention qu'on donne, elle doit être de 1500, autour de 1500 euros, je crois, pour le groupement des jeunes.
Là, je vous dirais que
c'est à peu près ça. Par an, ben vous la divisez par 10, quoi. Vous leur donnez 150 euros, mais ça veut dire que demain, il n'y a plus d'école de foot à gagner. Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Il y a 15 jours, on avait le forum des associations, on avait une trentaine d'associations qui étaient présentes. Et d'autres qui n'étaient pas là. Il y a deux, tous les ans, j'ai des associations qui viennent me voir. Monsieur le maire, on voudrait venir à Guéhenné. On est à tel endroit, mais ça ne nous convient pas parce que là, on est en train de le karaté. Il y a l'escrime qui revient. C'est tout ça qui contribue à la vie d'une commune. C'est pas en dénigrant, en disant ah ben il n'y a rien, on va arrêter de donner, on va arrêter de faire. C'est pas le. Quand je parle de populisme, oui, c'est en gros de dire des choses dont on sait qui sont fausses et en plus qui peuvent être. C'est là où le danger il est. C'est là où le danger il est parce que quand vous dites il y a de plus de 2 millions de dettes sur la commune, tout le monde dit ouais, 2 millions, comment que c'est ? Alors qu'en fait, elle est d'un million 5 et que l'année prochaine, il n'y aura plus qu'un million 3. Moi, j'ai la courbe là, vous voyez, cette courbe-là, on l'a faite il y a déjà quelques années. Hein. Et on l'avait fait avec effectivement le pic qu'on était en 2019, dont je vous parlais tout à l'heure, avec une descente. Effectivement, si on avait. Sous réserve qu'on ne fasse pas d'autres emprunts, mais c'est. Voilà, nous, on était partis sur le fait de ne pas faire d'emprunt. Oui, quand on avance des choses comme ça, quand vous dites en gros, les élus, ils ont tous un portable ou des trucs comme ça, et c'est la commune qui paye, tout le monde va trouver ça anormal. C'est injuste. Et est-ce que ça ne s'apparente pas à du populisme ? C'est en gros tromper les gens en plus, parce que les gens, un jour, ils vont se rendre compte que c'est faux. Donc, c'est en ça que je dis, quelque part. Et puis ces gens-là, demandez aux associations, demandez aux organisations, vous ne les voyez jamais nulle part.
Hein. J'ai deux dernières petites questions, si vous me permettez. D'abord, juste un mot sur le rapport de la CRC. Vous, comment vous l'analysez, le qualifiez ? Est-ce que c'est un rapport que vous... Parce que vous dites que ce sont des gens factuels. Est-ce que vous le trouvez, du coup, tout à fait finalement attendu, logique, un peu sévère, injuste ?
Vous dire qu'on a eu des surprises, ça serait vous mentir. Parce que quand on a eu des échanges avec eux, on savait à peu près ce qui allait être écrit. Par contre, on a des divergences de vues par rapport à... Et en tous les cas, on a le sentiment de ne pas avoir été entendu sur un certain nombre de propositions qu'on faisait. Après, la Cour des comptes, on sait pertinemment que... Enfin, vous êtes bien placé pour le savoir, hein, vous en faites les échos pratiquement pas toutes les semaines, mais très régulièrement. Non, mais pas que chez nous, hein. Partout, hein. Non, chez nous, ça va quand même. On n'occupe pas quand même tout cet espace-là médiatique. Mais quand je vois dans tous les... pratiquement à chaque fois, quand vous avez un rapport de la Cour des comptes, c'est la hantise des élus, hein. Ou même des organismes, parce qu'à chaque fois, c'est à charge.
Si c'était pour dire que tout va bien, il n'y a pas besoin de...
Non, mais il pourrait. Pourquoi pas ? Il pourrait. C'est aussi leur rôle de dire tout va bien. C'est pas un tribunal, la Cour des comptes. Même s'ils s'appellent des commissaires. Il pourrait dire à un moment donné, il y a des efforts, il y a des choses qui sont préconisées, il y a des... Ils pourraient avoir ce rôle-là, enfin, moi, je pense. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout leur fonctionnement. Pas du tout leur fonctionnement. Donc, après, même l'État, ils arrivent à le critiquer, mais bon, là, ils n'arrivent pas, par contre, à faire modifier les choses.
Une question, vous allez me dire, c'est peut-être prématuré, mais comment vous vous projetez sur 2026 ?
Alors, pour l'instant, je ne me projette pas. J'ai pas chaque peine en son temps, je dirais. Donc aujourd'hui, on est dans la... moi, je, voilà, notre but, c'est de finir ce mandat dans les meilleures conditions, d'avoir une situation saine en fin de mandat. Et puis, on avisera. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais je démissionnerai pas. Non, mais bon, voilà, c'est... Donc là, ben, j'ai tous les documents, sur tout ce que je vous ai dit, avec les chiffres à l'appui, avec... voilà. Dit le vendredi dernier. Alors, quand vous entendez des gens parler comme ça, c'est même irrespectueux, je veux dire. Dans le détail, les dépenses de fonctionnement sont passées de 600 000 euros il y a 20 ans à 1,3 million. Je vous ai dit tout à l'heure, elles étaient, il y a 20 ans, elles étaient à 1,043 000. Là encore, pas de problème si les recettes suivent, mais ce n'est pas le cas. Les recettes sont passées de 900 000 à 1,3 million. Dans ces conditions, impossible d'investir. Il faut même vendre du patrimoine pour payer les annuités de la dette. Justement, la vente du patrimoine, on en parle. Quelle stratégie, waouh, impressionnant. Le mec se dit, alors le mec c'est moi, hein. Le mec se dit, merde, j'ai un trou énorme à boucher, en plus j'ai des travaux à faire et j'arrive pas à faire face parce que j'ai plus de thunes. Et en plus la banque va me demander de payer les annuités d'emprunt, merde, merde, merde. Ah je sais, je vais dire que je vais vendre des bâtiments et gonfler le prix. Et là on décrit, rue du Château, racheté à l'EPF 50 000 euros, allez, 110 000 de recettes au budget, comme si c'était un prix qui
ça, était donné. Ça, c'est le compte-rendu de
c'est la réunion
de la séance de la semaine dernière.
Oui, c'est ouais. La réunion de rue de Bellevue, immeuble complètement. Alors, d'un côté, on vend les bijoux de famille, mais de l'autre côté, de rue de Bellevue, immeuble complètement délabré, sans terrain, en bord d'un départemental. Allez, 220 000, grosso modo. Et voilà, 330 000 de recettes, facile en fait, les recettes dépenses. Bon, mon budget est quand même complètement déséquilibré, le préfet, il n'aime pas. Bon, c'est qu'un con, on verra plus tard. Non, quand vous entendez des choses comme ça, c'est ahurissant. La part de gens qui prétendent à demain être aux affaires. Résultat, la CRC regarde le budget. Des dépenses ont été oubliées, des recettes ont été gonflées en fonctionnement. Et c'est 330 000, monsieur le maire, vous êtes sûr, demande la CRC. Oui, sûr, bien sûr, bien sûr. Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. Et 330 000, c'est la mise à prix. Vous allez voir ce que vous allez voir. Attendez le 12 juillet. Le 12 juillet, la CRC a vu. Aucune œuvre, pas d'enchère. Alors, c'est la faute au contexte, à l'incertitude politique, à la météo, à la période estivale. C'est vrai qu'on vend mieux en période de tempête, par moins 5, vivement cet hiver. Enfin, le résultat est le même. La CRC a pris ses 330 000 et les a divisés par deux et a inscrit seulement 165 000. C'est faux. Elle a inscrit 250 000, pas 165 000. Vous voyez, encore un exemple de... Mais voilà. Quand vous entendez ça, vous dites que c'est le moment de réagir. On ne peut pas laisser passer des choses comme ça. C'est pas responsable. Et quand vous dites, on parlait de populisme tout à l'heure, si on n'est pas en plein dedans, là, c'est... Il n'y a pas... Puis je pourrais comment, quand on me dit qu'on surpaye, que je continuerai à embaucher un comptable qui est plus payé que beaucoup de DGS des communes autour, il est payé sur une grille de la fonction publique en tant que rédacteur, Enfin voilà, il y a... Tout ça, nous on a les documents et moi c'est les chiffres que je vous donne, c'est des chiffres. Voilà. Je vais vérifier.